Bienvenue sur The Happy Now. Je suis Elodie, je suis psychologue clinicienne et je travaille notamment avec des enfants et des adolescents.
Et moi, je suis Cécile, je suis docteure en psychologie du développement et de la santé. Sur cette chaîne, on va parler des sujets qui nous inspirent. La vie de parents, la vie de couple, la vie de femme, mais aussi des petites astuces pour se sentir bien maintenant.
Salut à tous.
Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu, on va dire sensible, mais à la fois très très médiatisé.
Surtout ces derniers temps,
et on voulait revenir dessus pour expliquer un petit peu plus précisément à la fois les recommandations et puis notre point de vue, c'est le sujet des écrans. chez les enfants,
voilà.
Particulièrement. Donc je pense qu'on est tous confrontés à cette réalité aujourd'hui parce que ça fait partie de nos vies d'adultes, il y en a partout. Quand on parle des écrans, évidemment, on ne parle pas que des écrans de regarder la télé, regarder des dessins animés, parce qu'on parle des enfants, mais de tous les écrans, donc c'est-à-dire le téléphone qu'on a greffé à notre main toute la journée.
Ça fait aussi partie de l'exposition.
Ouais, les ordinateurs, tout ce qui a un écran.
Les tablettes, les jeux vidéo.
Voilà, donc c'est un sujet qui touche les plus petits et les plus grands, donc vraiment dès la naissance, dès la naissance et jusqu'à l'âge adulte, hein. Ça touche même d'ailleurs les adultes, mais là on va s'intéresser aux enfants. Pourquoi finalement on dit que c'est néfaste pour les enfants, parce que moi je me rappelle quand on était jeune, on savait qu'il fallait pas regarder la télé toute la journée, mais
c'était pas aussi tranché.
On disait pas que ça allait.
Non, mais clairement, il y a un effet de société par rapport à quand nous on était petits. Bon, ça fait un peu comme si on parlait d'une autre époque. Hein, on n'est pas non plus si.
Il y avait déjà la télé. Hein.
Mais clairement, la société a évolué dans le sens de plus en plus de présence des écrans dans les maisons, même dans les écoles maintenant.
Ouais.
Donc on va voir aussi que c'est pas que néfaste s'il y en a dans les écoles. Donc c'est que c'est pas non plus que néfaste. Mais on voulait se poser un peu sur pourquoi les recommandations sont allées jusqu'à une interdiction avant les 3 ans de l'enfant.
Donc pour rappel, les recommandations de l'OMS, c'est une interdiction des écrans jusqu'à 3 ans, total.
Et donc du coup, dans cette interdiction-là, il y a même des conseils sur aux parents, éviter d'utiliser votre téléphone portable en présence de votre enfant. Il faut savoir que les enfants, ils apprennent aussi par observation et essentiellement par imitation. Donc tout ce qu'on fait, ils vont à un moment ou à un autre le refaire.
Tout à fait.
Voilà.
Encore
donc,
une fois.
On leur donne des exemples, quoi.
Ouais.
À nous de voir lequel on veut donner.
Mais c'est pas si facile.
Non, c'est
parce
sûr.
Que sinon, ça se saurait, personne. Ils auraient pas besoin de faire les recommandations si c'était si simple. Alors pourquoi finalement c'est néfaste pour l'enfant de regarder des écrans, donc on peut dire des dessins animés par exemple, parce que c'est ça, plus vers ça qu'ils vont aller.
Déjà, il faut savoir que le cerveau de l'enfant, du petit enfant, donc puisqu'on parle de l'interdiction avant 3 ans, il n'est pas du tout fait pour recevoir dans un même moment autant d'informations que ce que proposent les écrans, en fait. En termes de stimulation auditive, visuelle, la vitesse de débit des informations et de la stimulation. Ce qui fait que ça va mettre leur cerveau dans un état d'hypervigilance, puisqu'il est incapable de traiter et d'assimiler cette information. Il va vraiment se mettre dans un état d'hypervigilance. Et quand on dit état d'hypervigilance, dans quelle autre situation il se met dans cet état? Quand l'enfant est stressé. Donc ça va venir créer le même état que quand l'enfant est stressé. Ce qui fait que du coup ça va déjà c'est épuisant, ça fatigue les enfants. Cet état d'hypervigilance, il va entraîner chez l'enfant un état d'agitation aussi, avec des difficultés à se concentrer et donc à être réceptif, à se calmer, à se réguler sur le plan et du comportement et des émotions. Bien sûr, c'est un état transitoire. Hein. C'est pas l'enfant regarde une fois la télé et c'est terminé, on le récupère plus. Heureusement, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça, mais il faut savoir que ça crée ça quand même. Donc c'est
ça
vraiment...
crée ça, pas que pendant qu'on regarde. Donc c'est d'ailleurs, on regarde, il y a l'état d'hypervigilance.
Oui, et c'est après qu'il y a l'état de stress. D'agitation.
Ouais. Et après, il y a l'agitation.
Ouais.
Qui est autour de ça.
On entend beaucoup ces derniers temps que l'enfant n'est pas capable de... qu'il faut accompagner l'enfant dans la gestion de ses émotions parce qu'il n'est pas capable de se réguler tout seul. Mmh. C'est vrai et c'est aussi vrai de cet état qui résulte de l'exposition aux écrans. Mmh. Du coup, il ne faut pas penser que c'est complètement anodin. Mmh. Et de toute façon, il faut dire que c'est quand même un peu notre travail aussi puisqu'on... On est psychologues toutes les deux, Cécile psychologue du développement et moi je travaille avec des enfants, donc on va pas vous dire que ces recommandations elles sont à prendre par-dessus la jambe, c'est pas du tout le cas, on peut pas vous dire ça de par notre métier.
Même si c'est pas facile tout le temps, voilà. C'est un fait.
Ouais.
Il faut c'est plus facile quand on le comprend, je pense, de comprendre que ça crée cette hypervigilance et qui crée ensuite des comportements plus agités, etc. Parce qu'on peut avoir tendance à le faire pour avoir un enfant qui se calme, qui soit posé,
qui se pose un petit peu,
qui se pose un petit peu, et que en fait ça fait.
Ben en fait, c'est un cercle vicieux après. Du coup, justement, c'est un cercle vicieux. Un autre facteur qui fait que c'est vraiment à prendre en compte, ces recommandations, c'est qu'il y a un phénomène d'addiction très rapide avec les écrans. Ça, c'est très clair. Ça apporte une stimulation intense, immédiate, donc trop intense pour le cerveau des jeunes enfants. Immédiate sans trop faire d'efforts, on le voit même chez les adultes. Hein. On passerait pas autant de temps sur nos smartphones si on n'était pas un petit peu addict nous aussi. Donc il faut vraiment se dire que ça fonctionne comme une addiction, quoi.
Ouais. Donc on n'a pas envie que notre enfant soit accro à
quoi que ce soit.
À quoi que ce soit.
Petit,
et petit et même plus grand d'ailleurs.
Voilà. Ouais. Et que donc, du coup, qui dit addiction dit recherche active de ces moments devant les écrans, un peu obsession du moment où je vais pouvoir satisfaire mon...
Donc finalement, on est moins tranquille que ce qu'on pense en voulant...
Ouais, et puis du coup, si c'est ça qui occupe l'esprit de l'enfant, du coup, l'enfant, il est plus ouvert à l'exploration de son environnement, il est plus ouvert, donc que ça soit pendant qu'il est sur les écrans ou... Dans un temps où il y serait pas, mais il est en quête du prochain moment où il y sera, il est un peu comme obnubilé par cette idée. Peut-être que je grossis un peu le trait, hein, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est que à cet âge-là, et pour apprendre et pour intégrer tout ce qu'ils ont besoin d'intégrer, rien ne vaut l'expérience. Ouais. Et donc du coup, c'est important qu'ils aient des temps où ils vont explorer leur environnement, où ils vont expérimenter différentes choses, où ils vont, confronter, être acteur et confronter ce qu'ils ont déjà pu expérimenter par le passé à des nouvelles situations et donc créer des nouveaux apprentissages et tout ça.
Des petits scientifiques
c'est
en
herbe. C'est exactement ça. Et
ils ont
le
besoin
monde,
d'expérimenter.
Voilà, et le monde est leur laboratoire. Ouais. Ils apprennent dans la vraie vie.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit pas d'écran avant 3 ans parce qu'ils ont vraiment besoin d'expérimenter, d'être acteur, de toucher, d'être dans l'interaction aussi.
Ouais.
Avant ces 3 ans, ils en ont toujours besoin après, évidemment. Mais c'est un petit peu moins strict après. Ça n'empêche pas que c'est pas après 3 ans, c'est pas écran illimité.
Non, il faut de toute façon, on va en parler. Il faut essayer de garder le contrôle sur les écrans et sur le temps que passe l'enfant devant. Pour revenir à l'expérimentation, moi j'aime bien. Parler aussi de ce qui a été vérifié par des études parce que je trouve que
on est d'accord.
Ça valide quand même un peu nos propos. Aussi, moi j'aime bien m'assurer que ce que je pense
c'est validé scientifiquement.
Voilà. Mais du coup, il y a des études qui ont été faites avec trois groupes d'enfants une étude notamment, avec un groupe d'enfants qui étaient mis en situation de faire l'expérience, d'expérimenter avec pour objectif l'acquisition d'une nouvelle compétence. Un groupe d'enfants qui était placé devant un adulte qui allait expliquer donner un exemple, donc lui expérimenté, mais les enfants ils sont en situation d'être plutôt passifs, hein, c'est pas eux qui sont au cœur de l'expérience. Et un troisième groupe d'enfants où c'était une vidéo de l'adulte en train d'expliquer et de faire un exemple. Et vraiment, il y a eu des différences significatives avec le premier groupe d'enfants qui était en situation d'expérience, qui a eu vraiment un apprentissage solide qui reste dans le temps. Le deuxième groupe qui avait il y a eu de l'apprentissage aussi, mais moins solide, moins stable dans le temps. Et le troisième groupe, encore moins bien. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien appris dans le troisième groupe, mais vraiment significativement beaucoup moins bien que le groupe qui a expérimenté directement. Donc voilà, donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête.
Ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand on voit les études qui montrent l'évolution des dessins.
Ah bah oui,
entre les enfants qui passent un petit peu de temps sur les écrans, beaucoup de temps ou pas du tout. Quand on voit la différence des dessins, moi, ça m'impressionne toujours. Le fameux bonhomme, qui est un petit peu le point de...
Oui,
voilà, de base. On est fiers, oui, quand notre enfant réussit un bonhomme, évidemment. Au début, après, on espère un peu plus. Et de voir vraiment que ce bonhomme va être beaucoup plus créatif. Voilà, au-delà de l'aspect de l'apprentissage, je trouve que la créativité qu'on va pouvoir apporter hors des écrans est hyper intéressante aussi.
En fait, c'est aussi de l'apprentissage. Et je sais pas, enfin, il y a un livre, moi, qui m'inspire énormément et qui me passionne. C'est le livre de Céline Alvarez sur les lois naturelles qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant ». Et dedans, en fait, elle explique un peu ça, que les enfants, ils peuvent eux-mêmes se fixer des objectifs. Donc, tu parles du bonhomme, par exemple. Et donc, il y a des enfants qui vont se fixer des objectifs qui vont nous sembler trop compliqués pour leur âge. Mais qu'en fait, si on les laisse s'entraîner et répéter autant de fois qu'ils le veulent, donc ça demande du temps. Et s'ils passent ce temps-là devant des écrans, ils ne l'ont pas pour expérimenter et s'entraîner. Enfin, entre guillemets, s'entraîner.
Mais après... Excuse-moi.
Vas-y, vas-y.
Après, parce que si on dit ça, ça laisse aussi penser que si on regarde peu les écrans, c'est-à-dire, je ne sais pas, à 2 ans, 10 minutes par jour, donc ça laisse quand même beaucoup de temps pour faire tout le reste. Donc on pourrait se dire, c'est pas grave parce que c'est 10 minutes, c'est 10 minutes, et après, il y a 2 heures par soir où on va expérimenter.
Donc, du coup, ça, c'est un peu revenir à ce qu'on disait au début en disant c'est 10 minutes d'exposition aux écrans, mais ce qui suit, c'est un enfant qui est plus agité, qui est moins disponible, qui peut moins se poser, qui peut moins se concentrer, donc qui ne va pas forcément pouvoir trouver l'énergie qu'il lui faut pour se récupérer et faire une activité créative, qui peut aussi rester sur sa frustration de il y a eu 10 minutes, on a dit que c'était très addictif. Ouais. Donc du coup qui peut très bien être complètement frustré et du coup être dans un état émotionnel vraiment difficile pour lui et pour les parents aussi à la suite de ce temps de vidéo. Et donc du coup là on part sur des délais de temps qui sont plus seulement 10 minutes mais derrière qui peuvent être 1 heure.
Ça a un impact pas seulement sur le moment mais tout autour.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on dit pas d'écran.
C'est pour ça que la recommandation, c'est 0 écran avant 3 ans. Après, on dit pas du tout que c'est facile à faire, on n'est pas des super mamans parfaites non plus. C'est ce que je disais à Cécile avant qu'on commence. Clairement, il y a des moments où je check mon téléphone alors que je suis avec mon fils.
Oui, mais qui ne le fait pas.
Après, des fois, je le vois en train de me regarder, de regarder mon téléphone, parce que c'est fou comme ils sont tout de suite attirés.
La lumière.
Voilà. Donc, je me dis toujours, je me dis qu'il ne faut pas le faire, je le sais, mais je le fais quand même. Donc, je sais très bien que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, et j'essaye de tendre vraiment vers ça.
De toute façon, ce qui est important, c'est pas d'être parfait, parce que personne n'est parfait.
Non,
c'est de comprendre. De comprendre pourquoi c'est important, pourquoi ça aide votre enfant de réussir à vous y tenir, parce que c'est vous quand même qui, bah, qui choisissez hein, à la base. Et donc, de comprendre. Moi, ce qui m'aide aussi, je trouve, c'est que de savoir que, en fait, bah, c'est 5 minutes. Pour ces 5 minutes, on va payer, entre guillemets, parce qu'il va être plus agité après, parce qu'après, il va demander tout le temps les écrans, parce que, et qu'au final, personne n'est gagnant. Ni le parent pour ces 5 minutes de tranquillité, ni l'enfant, ni personne. Donc, du coup, ça, je trouve que c'est plus facile de réussir à se convaincre. Après, évidemment, dans la vie de tous les jours, on n'est pas tout le temps...
Après, je pense qu'il faut, en t'écoutant là, je me dis, en fait, le piège, à mon avis, il est vraiment de se dire, parce qu'on est quand même d'accord, c'est pas de le faire exceptionnellement une fois qui va être néfaste au long terme et à vie, et voilà. Mais à mon avis, le piège, c'est de se dire, allez, pour cette fois et exceptionnellement, on peut le faire. Et après, de tomber un peu dans le truc, bon.
Cette fois aussi.
Voilà, c'est pas très souvent. Mais il y a voilà, des petites choses comme ça. On peut vite glisser, à mon avis, vers quelque chose de beaucoup plus régulier.
Ça peut devenir
régulier.
Une récompense. Voilà, ça peut devenir, si tu fais ça, ça va être ça. Et
ça peut devenir
vite... Une sorte on a l'impression que c'est un confort de prime abord. Et qu'il n'est pas sur le long terme.
Oui, non. C'est surtout... Ouais, comme on a vu pour l'enfant, c'est vraiment compliqué. Les risques... Les risques qui sont identifiés par l'OMS, c'est quand même des retards de langage, un manque d'habileté dans les interactions sociales. Il y a quand même des choses...
Ça, c'est intéressant aussi, parce que les écrans, au-delà de l'aspect hyper stimulant, surstimulant, de fait de ne pas être acteur, c'est aussi un moment où on n'est pas en interaction. Alors, il y a quelques écrans qui permettent l'interaction, les jeux ou les...
Mais... On a vu que c'était par l'expérimentation active et concrète que l'enfant apprend vraiment. Voilà. Donc on peut aussi se questionner sur ces jeux interactifs éducatifs.
Ces jeux interactifs peuvent peut-être, de manière exceptionnelle, après 3 ans, pourquoi pas.
Oui, oui.
Mais je trouve que... les écrans, c'est aussi le manque d'interaction. Un moment où on n'est pas en interaction avec un autre humain. Même un animal.
Les enfants, ils ont aussi besoin de jouer. Bah, de toute façon, c'est en jouant qu'ils expérimentent et qu'ils essayent et tout ça. Mais du coup, ils ont besoin de moments où on leur donne pas forcément... on leur apporte pas sur un plateau... la stimulation ou ce qu'ils vont faire, en fait. Ils ont besoin de chercher, d'essayer, d'imaginer quand ils sont plus grands. Enfin, voilà, là, on a vu... Enfin, on voit Romy, maintenant. Elle imagine. Elle fait des petites histoires.
Presque 3 ans.
Ouais. Et du coup... mais ça fait déjà un petit moment qu'elle commence à faire des petites histoires. Ça arrive un petit peu plus tôt.
C'était pour les gens qui connaissent
Non, mais du coup, s'ils n'ont pas ces espaces libres, là... du coup, ils vont pas mettre ça en scène. Ils vont pas mettre ces facultés-là en exergue. et ils vont être plus sur un mode passif où ils sont habitués à recevoir de la stimulation. Et là, du coup, on voit aussi ce que ça va créer comme décalage avec des choses plus concrètes de la vie où on est obligé de faire un minimum d'efforts pour accéder à...
C'est ça aussi, du coup, c'est un peu... l'aspect l'écran, enfin le dessin, si on parle du dessin animé, mais ça
même
nous
des jeux,
tombe
même
des jeux, ça nous tombe un peu tout cru, tout fait, et ça remplit un besoin de jeu, enfin pas de jeu, mais de ça nous stimule sans qu'on ait besoin de rien faire, et donc ça inhibe un petit peu le goût de l'effort, mais d'expérimenter pour obtenir un résultat.
Quand tu vois que un des risques c'est aussi l'obésité,
oui,
tu vois que le lien, il est facile à faire quand même, de se dire, oui, en fait, ça nous semble un peu logique si l'enfant est devant la télé, il bouge pas, devant la télé ou enfin devant un écran,
sachant quand il bouge pas, enfant, il bouge.
Ben ouais, mais du coup, ça inhibe aussi l'envie de faire autre chose. Ça prend, comme on disait, tout l'espace, enfin, ça risque de prendre tout l'espace. Donc, bon.
Ça fait un tableau un peu noir. Là.
Ouais. Après, on en parlait donc ça avant 3 ans, voilà les recommandations. Après, on en parlait aussi en se disant l'important c'est quand même de garder un contrôle dessus parce que on est dans une société où il y a des écrans partout. À partir de 3 ans, on va dire que les dessins animés, on peut commencer à en proposer aux enfants et voilà. À condition que on arrive quand même à garder un contrôle où ça ne devient pas la situation problématique de dire non, pas maintenant, que l'enfant continue à jouer, que l'enfant, je sais pas, peut regarder des livres avec...
Qu'il n'en ait pas besoin.
Oui, que ça soit pas un besoin pour quelque chose. Quoi.
Pour faire quelque chose. Enfin, pour tout, pour se calmer, pour manger.
Ouais. Les repas, c'est aussi des temps de socialisation super importants où, du coup, forcément, la télé vient un peu gâcher les interactions.
C'est la nounou virtuelle.
Donc voilà, après, ce qu'on se disait avec Cécile aussi, c'est que rien n'empêche, quand l'enfant est en âge de le faire, de pouvoir dire bon bah un dimanche après-midi pluvieux de novembre par exemple avec un bon plaid, des chocolats chauds, du pop-corn, de se dire on se fait une petite session en famille,
dessin animé, un petit Walt Disney,
petit ours.
Oui, parce que du coup l'écran là d'un coup ça devient un moment de socialisation, ça devient
un moment de partage,
un moment de fête.
On peut en reparler après.
Ça peut être une forme de petit rituel, même si rituel, pas dans le sens, on le fait tout le temps, mais dans le sens, c'est quelque chose qu'on fait en famille, dont on se rappelle, qui crée des jolis souvenirs. Et aussi, on est là avec son enfant devant l'écran, pour pouvoir discuter, rassurer. Le rassurer s'il y a quelque chose qui fait un peu plus peur.
Dans les Walt Disney,
ça fait trop peur.
Il y a quand même des scènes
hyper flippantes. et puis de discuter. C'est vrai qu'ils ont besoin, c'est comme quand on lit un livre. Enfin, moi je vois ma fille qui a 3 ans, quand on lui lit un livre, elle n'écoute pas juste le livre. On commente toutes les pages. Mais là, elle va chercher et ça, et puis il va faire quoi. Et dans le dessin animé, ça peut être pareil. Et donc du coup, ça devient un moment de partage. Qu'on n'a pas forcément si on le laisse devant pour pouvoir faire autre chose.
Après, de manière générale, donc là, on disait regarder avec l'enfant pour veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas d'émotions difficiles pour lui, que ça soit un bon moment, que ça reste un bon moment. Avoir cette idée en tête de contrôle des écrans, c'est s'assurer que le contenu est adapté à l'enfant, donc même en grandissant. Il y a la question vers 8-9 ans, 10 ans d'aller sur internet. Donc comment on fait pour sécuriser tout ça, comment on s'assure que l'enfant se met pas en danger, n'est pas en contact avec des individus malveillants. On a un peu tout ça aussi. Et puis après, à l'adolescence, il y a le smartphone personnel, le lien avec les autres par le biais du smartphone ou par le biais des jeux vidéo. Du coup, enfin là,
qui sont beaucoup moins télé maintenant les ados que.
Je vois du coup que ça soit les frères et sœurs des enfants que je suis ou en tout cas pas mal d'ados. Enfin les parents me disent que ils s'en sortent pas, dans le sens de c'est une réelle addiction les jeux vidéo. Et que du coup leur ado, il quitte plus sa chambre, il est soi-disant avec ses copains parce qu'il est au micro, en réseau avec ses copains, mais qu'au final il n'y a pas de vie sociale quoi. Et il y a même une famille qui m'avait dit, nous on lui a interdit les jeux vidéo, on l'a puni parce qu'il avait fait une bêtise assez énorme. Pour qu'ils en arrivent à le punir, c'était... et la maman, elle me disait, c'était incroyable, il s'est mis à nous reparler. Donc c'est drôle, mais ça reflète quand même bien ce
l'addiction,
qui se passe en fait. Hein.
Ouais.
Donc,
ouais.
Donc voilà,
c'est important. C'est pour ça qu'en gardant le contrôle, on évite un peu ces situations d'addiction et de... Ouais, peut-être... d'isolement un petit peu social aussi chez les plus grands.
Peut-être que la difficulté en grandissant, c'est d'arriver à être à la fois dans la souplesse de se dire il faut lâcher un peu prise parce que sinon il est largué quand il est avec les autres.
Oui, parce qu'on peut pas aller faire vivre dans une cloche.
Non.
Voilà, si tout le monde parle de quelque chose et que votre enfant est le seul à pas connaître, ça peut créer des difficultés aussi.
Mais du coup, mais de quand même garder un contrôle et que ça devienne pas une addiction, une réelle addiction, quoi.
Après, je pense qu'aussi, si dès le plus jeune âge, on a réussi autant que possible, même en faisant des erreurs parfois, ce qui est normal et humain, ce qu'on fera tous, à garder le contrôle depuis sur tous les écrans, ce sera plus facile après.
J'espère. On va le savoir petit à petit, mais j'espère vraiment parce que j'ai vraiment vu, moi aussi, du coup, dans mon travail, j'ai vraiment vu des différences flagrantes entre des enfants que je rencontre au début du suivi qui sont régulièrement confrontés et exposés aux écrans. Mmh. Et après, après une sensibilisation auprès des parents vraiment qui pensaient pas du tout mal faire, hein, qui pensaient vraiment proposer en plus des choses éducatives à leurs enfants et tout ça, mais clairement c'était trop par rapport à l'âge. Je vois vraiment une différence de comportement.
Ça, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est un peu tout ce discours, il est un peu culpabilisant sur les écrans parce que si on le fait, on peut se sentir un petit peu. Ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, il est jamais trop tard.
Ah non.
Que du coup, c'est comme la cigarette. Si on arrête, on gagne des minutes de vie. C'est un petit peu pareil finalement.
Mais du coup, déjà, oui, c'est clair. Enfin, alors, déjà, ça sert à rien de culpabiliser parce que ça fait pas du tout avancer. Après, il y a encore des familles aujourd'hui qui sont pas du tout bien au fait de tout ce que ça implique.
Je suis d'accord qu'il faut en
parler. Qui sont là pour faire, comme tout le monde, le mieux pour leurs enfants, qui tombent un peu dénus quand on dit vraiment les risques, quoi.
Tout à fait. Oui, c'est pour ça que c'est important d'en parler.
Ouais.
Mais forcément, on sait aussi en psychologie que si on met le doigt sur quelque chose qui fait mal,
oui.
Les gens vont avoir une position
de repli
sur eux-mêmes et devenir presque un peu militant de l'autre côté en disant mais c'est n'importe quoi, ça, parce que ils veulent pas se dire je fais mal.
Oui, bien
totalement,
sûr.
Enfin, c'est un réflexe psychologique qui est
après. Moi, je dirais pas les choses comme ça. Je dirais pas, lui, il fait mal. Mal. Elle fait bien. Voilà.
Non, on est d'accord. C'est
plus.
C'est le ressenti personnel.
Oui, bien sûr. Ouais, je l'ai aussi parfois, comme tout le monde. Alors que je connais les mécanismes. Les cordonniers sont pas les mieux chaussés. Mais du coup, l'idée, c'est un peu de se dire, je suis plus au courant des implications et des impacts. Ouais. Et après, je fais de mon mieux. Voilà.
Tout à fait.
Selon
en tout cas, le fait
aussi,
de se dire que c'est pas parce que là, aujourd'hui, votre enfant, vous avez l'impression qu'il commence à avoir besoin des écrans. C'est ça qu'on veut éviter finalement. C'est ce besoin des écrans pour faire passer la journée
pour aller bien.
Et ça veut pas dire que là, vous pouvez pas faire en sorte que ça s'arrête. Ça, c'est intéressant.
Non.
Et que si vous arrivez à arrêter ça, alors vous verrez des changements.
C'est arrêter ou mieux reprendre...
selon l'âge.
Ouais, reprendre un peu le contrôle de la situation.
Ça devienne plus un besoin, en fait. Je pense que c'est là où on voit qu'il commence à y avoir un souci.
Toujours dans son bouquin, Céline Alvarez, elle prend un exemple d'un enfant qu'elle a eu en classe. ou un enfant très agité, qui se posait pas, qui faisait pas du tout attention aux autres, qui était pas du tout dans l'interaction avec les autres, qui pouvait s'endormir le matin en classe en arrivant. Elle dit que les enfants qui s'endorment en classe en arrivant le matin, c'est qu'ils ont regardé la télé avant de venir. Elle dit ça dans son livre. Mais du coup, elle explique en fait comment elle a fait pour convaincre les parents de... Et ils étaient vraiment volontaires, ils voulaient... après, c'est allé assez loin parce que du coup, ils n'ont pas réussi à supprimer, juste diminuer, mais c'était encore pas assez, bref. Mmh. Elle dit qu'à un moment, elle leur a dit qu'elle voulait vraiment aider leur fils, mais que là, elle ne pouvait plus sans leur partenariat. Et donc, ses parents ont mis la télé à la cave et l'enfant s'est métamorphosé. Et elle dit qu'ils ont, ils ont fini l'année et qu'ils ont... pas ressorti la télé, quoi.
Ouais.
Parce que leur enfant est rentré dans les apprentissages, il avait un retard, il a rattrapé les autres enfants. Enfin,
ça, c'est magique. Enfin, moi, je trouve que... Coup, voilà, et puis, c'est pas des cas isolés, en fait, quand tu regardes. C'est tout le temps comme ça, quoi.
Bah oui.
C'est intéressant.
Après, je pense que ça aide aussi d'avoir vu des changements chez des enfants et tout.
Peut-être,
ça.
Peut-être, ouais.
Parce qu'on se rend vraiment compte, quoi, je pense.
Ah bah, l'expérience, encore une fois.
Bah oui, bah, c'est clair. Même pour nous, ça marche.
Même pour nous.
Ouais.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, si on... Bah voilà, on est tombé là-dedans, voilà. Hein. Tout le monde, personne n'est parfait. Notre enfant, on se rend compte que là,
oui,
c'est un petit peu trop.
On s'est simplement pas rendu compte que ça avait dérapé vers...
Ouais, ou on a l'impression que ça l'aide, et puis que finalement, quand on...
Moi, j'ai vraiment peur de ça, du truc qui dérape gentiment.
Ah bah tac, oui, tac, bah tac, c'est tac, toujours tac, comme ça, c'est pas d'un coup,
je
mets deux heures.
Et tiens, là, on se retrouve à... Oui, d'accord.
C'est toujours comme ça, je pense, dans l'éducation. C'est pas genre d'un coup, tu te dis, tiens, ah, je vais le mettre
non,
devant
clair,
une tablette, mais... regarder des trucs pendant 3 heures, non.
Non, non, c'est que ça dérape gentiment, petit à petit, sournoisement.
C'est ça. Mais ouais, donc c'est pas...
C'est sûr que, bon... C'est pas la cata, puisqu'on a dit que c'était pas irréversible et que du coup, il est jamais trop tard pour bien faire. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire
quand
on s'en rend compte et que on veut que ça change?
Du coup, l'idée, ça va être vraiment de reprendre le contrôle des écrans, peut-être de passer par une phase de plus rien du tout, si c'est pas possible de réduire.
Du sevrage, quoi.
Alors... Clairement, il y a des ados pour qui on a été obligé de faire ça. Donc, sevrage total avec plus rien du tout le temps que l'addiction, que ça passe. Vraiment, un vrai sevrage.
Ça devait être des jours difficiles pour les parents.
Oui. Après, je pense qu'on n'était pas dans le cas d'ados vraiment addicts au sens ils doivent faire une cure de désintoxication. Ça allait encore, mais on a dû vraiment passer par une suppression totale. Pour des plus jeunes aussi, mais plus par... Plus pour revenir à la recommandation, en gros, ils n'ont pas 3 ans, on arrête les écrans. On arrête. C'est pas moi qui décide, mais on en parle et on voit ce qui pourrait être favorable pour l'enfant. Et après, donc ça, c'est si jamais on n'arrive pas à simplement réduire. Mais après, on ne peut pas... un enfant qui a pris un peu cette habitude, qui a rempli, entre guillemets, son temps, comme ça, on ne peut pas juste dire « on enlève ».
Il faut
aider l'enfant, l'ado aussi. C'est plus dur avec les ados, parce qu'ils vont aussi être dans un truc, puisque tu veux pas, je ferai rien d'autre. Bon, d'accord. Mais avec, du coup, des plus jeunes, ça va être proposer des activités, essayer de les rendre aussi ludiques et aussi amusantes et aussi captivantes que l'étaient les écrans. Donc, ça va demander un peu de disponibilité et de temps et... Je pense qu'il ne faut pas lui dire « Tiens, t'as qu'à t'occuper comme ça », mais vraiment passer du temps avec.
Oui, parce que finalement, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est passer du temps avec leurs proches.
Alors après, il ne faut pas non plus paniquer en disant « Mais moi, je ne peux pas, il a déjà tel âge, il faut qu'il joue tout seul ». Il faut un peu se dire qu'on est dans un temps de transition et qu'on veut vraiment régler un problème. On règle un problème à la fois. Donc, d'abord, on règle le problème des écrans et ensuite, on réglera le problème de jouer tout seul. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, du coup, on choisit un peu son combat du moment. il faut accepter que pendant une phase, il faut montrer qu'il y a d'autres choses. Là, l'enfant, il aura, comme on a vu au début, il aura moins envie d'explorer. Il aura perdu un peu le goût de chercher, de se questionner, enfin pas complètement, mais voilà, faut pas non plus penser que ça les rend neuneux, mais non. Mais du coup il y aura moins d'appétence, ouais, et moins d'intérêt pour d'autres choses.
C'est ça, ça va pas être facile au début, ça c'est sûr.
Donc à nous de le susciter, l'intérêt.
Ouais.
De rendre la partie de petit malin beaucoup plus vivante que s'il jouait tout seul, de voilà, voilà,
de donner envie, bah parce que quand on joue à autre chose avec son enfant, on est avec lui. Mmh. Et ça, les enfants,
ils recherchent beaucoup,
ouais. Ils recherchent, en fait, ils ont besoin, ils ont envie, et qu'ils se rendent compte que quand ils sont pas devant un écran, ils peuvent être avec leurs parents aussi. Mmh. Ça, c'est chouette.
Ouais. Je me dis, du coup, peut-être qu'on peut aussi essayer de répondre à la question un peu, quel serait le critère pour se dire que là, ça devient trop. Je sais pas si on a assez parlé de ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Le piège. Là, c'est en live, on est...
C'est ça. Ouais, pour moi, le critère, c'est quand ça devient une demande permanente, quoi. Mm. Pour moi, alors, c'est ça, quand ça devient trop.
On va dire la fréquence des demandes et l'intensité du comportement lié aux demandes.
Ouais, et aussi quand on arrête.
Ouais.
Quand on arrête l'écran.
Ouais.
La possible crise qui s'ensuit.
Bah moi, je suis...
Si on s'arrête au bout de 10 minutes. Parce que si on s'arrête au bout de 2 heures, il n'y a peut-être pas de crise.
Bon, pour certains, il y en aura quand même.
Hein. Ouais.
Mais je suis assez d'accord avec ça. Et je rajouterais la réaction de l'enfant si on lui dit que ce n'est pas possible aussi.
Oui, aussi. Est-ce qu'il va aller tout de suite dire, je passe à autre chose et,
Mais je pense qu'après, il faut aussi se questionner sur l'appétence de l'enfant pour d'autres choses. Donc bien sûr que s'il demande que ça, on sait que c'est probablement quand même un peu trop. Mais si on voit qu'il est moins intéressé pour aller jouer dehors, après ça dépend de l'âge, mais des jeunes enfants, ils aiment quand même aller au parc, ils aiment quand même aller jouer dehors. S'il est moins intéressé pour lire des livres, en fait, si on voit aussi un changement au niveau de l'intérêt pour les autres activités, ça peut être aussi un signe d'alerte s'il est moins curieux, s'il explore un peu moins.
Mais ça part du principe qu'il n'a pas eu d'écran avant.
Oui.
Pour ceux pour
ou qu'on a glissé gentiment, sournoisement, et que on se dit, attends, là, en fait, clairement, il ne demande plus que ça, alors qu'avant, il aimait ça,
ça.
Tu vois ?
Et revenir, du coup, aux choses qui...
Du coup, refaire avec lui des choses qui l'intéressent. Plus forcément attendre qu'il demande d'aller au parc, mais prévoir d'aller au parc. Revenir. Je pense que ça, c'est des critères. Pour les ados, clairement, ça va être le temps passé dans sa chambre, l'ouverture vers l'extérieur,
l'envie de sortir voir ses amis.
Voilà, la capacité de conversation lors des repas, si on mange en famille, par exemple.
Après, il y a des phases, je pense.
Il y a des phases, mais je pense que c'est quand même des indices.
Ouais.
Si l'enfant, le jeune, l'ado, il veut juste manger vite pour repartir dans sa chambre, ça devient peut-être un peu...
Il est en panique totale s'il a perdu son chargeur.
S'il se réveille la nuit pour jouer. Alors
ouais.
Ça, j'en ai connu. Hein.
Ouais.
Donc voilà, de se dire, tiens, j'arrive pas à dormir, je me relève pour jouer. Ou même, je peux pas dormir parce que je pense qu'au jeu, j'ai pas fini ma partie, je me relève pour jouer.
Ouais. Il y a la fatigue aussi. Souvent, les instits ou les profs disent les élèves qui arrivent fatigués le matin.
On sait. De toute façon, là aussi, encore une fois, je vais faire ma psychologue études scientifiques, mais il y a des études qui ont montré que le temps de sommeil des adolescents a drastiquement diminué à cause justement des smartphones et tout, à cause du temps qui passe.
C'est sûr, mais c'est même chez les adultes.
Moi,
je le vois sur moi.
Oui, non, mais c'est clair, ça fait un peu peur quand tu regardes ton temps d'écran.
Oui, quand tu regardes les applis, là...
Nous donnons de bons conseils, mais pour nous, on ne les applique pas.
Oui, alors justement, parlons de ça. Parce qu'on sait qu'il ne faut pas que les enfants regardent des écrans. Mais j'ai remarqué que pour certains parents, ils font vraiment, pour eux, le fait de eux regarder la télé, par exemple.
Mais en présence de l'enfant.
Ou regarder leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur. Pour eux, c'est séparé.
Il regarde, mais du moment que l'enfant ne voit pas l'écran.
Ou si l'enfant voit, mais qu'il ne regarde pas parce qu'il n'est pas intéressé, parce que c'est les infos, autre chose, etc. Ouais. Pour eux, c'est différent.
Oui, non, c'est aussi de l'exposition. Qu'il voit l'écran ou pas, c'est de l'exposition.
On est d'accord. Je pense que, enfin, on est tous pareils, hein, on est tous tentés d'être... clairement, moi, mon métier, c'est sur Internet, donc je passe ma vie avec mon téléphone. Donc j'essaye vraiment de le laisser avec ma fille, mais j'y arrive pas toujours. Clairement, alors on n'a pas de télé, donc ça règle ça. Mais du coup, c'est important aussi de savoir que c'est pas seulement ce que quand l'enfant est passif devant la télé, mais c'est aussi quand il nous voit, nous les adultes, devant un écran.
Ouais, parce qu'ils vont imiter nos comportements.
Parce qu'ils vont imiter. Ouais, ça,
après, il y a aussi, c'est très important. C'est vraiment très important. Après, avec Cécile, on avait aussi discuté un peu du message qu'on voulait pas faire passer à nos enfants dans cette situation, parce que du coup. Si on regarde notre écran pendant qu'on est assis par terre pour jouer avec notre enfant, même si c'est que quelques secondes, on a toutes les deux la même réflexion de se dire on veut pas qu'il pense que l'écran est plus important que lui. Donc ça, c'est aussi un...
C'est ça, donc ça implique que quand on est avec son enfant et dans nos vies modernes, c'est pas toujours toute la journée. Du coup, il faudrait être sans écran.
Et c'est là que je te disais que
ça implique aussi l'ordinateur sur lequel on travaille, sur même si on sait que c'est du travail.
Bah voilà. Bah par exemple, moi, je regarde de temps en temps mon écran alors que je suis sur le tapis de jeu avec mon fils, même si
Oui, parce que et je pense que ça va avec le comment, pourquoi on met un écran à son enfant, c'est que bon, quand on a un bébé, on peut s'ennuyer, quoi. Enfin, je veux dire...
La conversation n'est pas toujours...
C'est assez limité, je veux dire. Donc, on est vite tenté, parce qu'on est nous-mêmes accro, clairement, de se dire...
De chercher une stimulation,
voilà. Donc, si on veut éviter à son enfant d'être comme nous, en plus, nous, ça nous aide de ne pas le faire, parce que moins on le fait, moins on est accro. Du coup, ça nous permet de faire moins. Donc ça, c'est cool pour tout le monde. Mais c'est important de savoir que ça aussi, c'est un temps d'écran pour les enfants. Et qu'en plus, ça laisse un message qui n'est pas forcément le message que vous voulez faire passer à votre enfant.
Mais même le fait d'entendre les... En fait, ça trouble l'enfant qui n'est pas préparé à cette compréhension. D'entendre, par exemple, on se dit « il est là-bas, l'écran de télé est là, il peut pas voir l'écran, je me mets devant la télé ». Le fait qu'il entende des voix de...
C'est surnaturel.
Voilà, du coup, ça trouble aussi... Enfin, il peut pas intégrer que cette possibilité. Et du coup, c'est une information qui comprend pas. Et alors après, dire que dans ce cas, je me mets devant mon écran avec mon casque, là, on revient à les interactions, la disponibilité.
Et alors, j'ai une question ouverte, auquel je n'ai pas la réponse. Par exemple, les appels vidéo. Est-ce que les appels vidéo, c'est de l'interaction avec un autre humain, mais pas vraiment parce qu'on n'est pas en face?
Moi, je pense que le bébé, il ne va pas forcément traiter ça. Enfin, ça dépend à quel âge, mais...
C'est une question que je me pose parce que ça, c'est quelque chose que nous, on fait de temps en temps. Pas quand elle avait 6 mois, mais depuis qu'elle parle, en gros, quoi. Parce qu'elle peut répondre et qu'elle aime beaucoup.
Après, comme tu dis, elle peut répondre, en fait. Donc, il y a vraiment... elle reconnaît la personne qui est sur la vidéo. Elle va répondre.
Pour moi, c'est différent dans le sens où il y a une interaction. Mais ça reste un écran, donc c'est pas idéal. Après, comme on est loin de la famille... Enfin, on voit pas la famille, je trouve que ça a un côté positif.
Mais en fait, après, j'ai pas non plus une réponse absolue basée sur des études scientifiques.
Non, mais je me pose la question parce que c'est vrai.
Mais
que...
si quelqu'un a la réponse, a une réponse peut-être appuyée sur des études ou ça serait intéressant.
Moi, après, je pense qu'il y a aussi l'impact des ondes par rapport à l'écran. À l'écran et aux appels qui est compliqué pour les petits.
Après, moi, mon avis, c'est aussi que si on fait des appels et que du coup, l'enfant, il est en interaction avec quelqu'un qu'il connaît, C'est pas la même chose parce qu'il a aussi déjà eu et il aura des moments d'interaction réels avec ces personnes-là.
Ouais.
Donc c'est pas que du virtuel, c'est pas. Il y a aussi cet aspect-là.
Bah moi je trouve que ça crée du lien.
Bah oui.
Ah, typiquement, Romy appelle souvent son arrière-grand-mère.
Bah oui, bah c'est sûr.
Et c'est un lien qu'elle n'aurait pas parce que voilà, on peut pas se voir tous les jours. Mmh. Enfin, on l'appelle pas tous les jours d'ailleurs, mais et que bah qui fait énormément plaisir à son arrière-grand-mère. Elle, ça lui fait plaisir aussi évidemment. Et du coup, tout le monde est content. Enfin, je veux dire.
Oui.
Mais bon, c'est sûr que c'est pas idéal. Ce serait mieux d'y aller. Bon, voilà, la vie fait que c'est pas toujours possible. Mais je me pose la question, ouais, vraiment.
Moi, je dirais vraiment ce critère-là, que c'est différent, parce que l'enfant, il a d'abord été en interaction avec la personne en vrai, puis il la reverra en vrai aussi. Enfin, ma nièce, elle, ma filleule d'ailleurs, elle habite loin, et c'est vrai que si on pouvait pas se parler via Skype...
Ce serait plus dur de créer un lien.
Oui, c'est sûr que... Et puis même, du coup, elle est aussi loin de ma mère.
Ouais.
Et du coup, elle se parle souvent, soit au téléphone, soit via Skype. Et,
Donc comme quoi, il n'y a pas que des avantages.
Non, c'est sûr. Il y a aussi des jeux vidéo et des outils pédagogiques sur écran qui stimulent certaines fonctions cognitives et qui sont aussi basées sur des études. Qu'on pourrait parfois remettre en question, puisque j'ai appris que certains psychologues étaient payés pour rendre les jeux vidéo addictifs. Hein. Donc, on n'a pas tous la même
l'éthique.
Notion de la déontologie et de l'éthique. Mais...
Ouais, de toute façon, hein, y a
mais bon, en tout
y
cas.
Il y a des lobbies partout.
En tout cas, voilà, il y a.
Ah bah, si les. On dit que Steve Jobs et tous ses collègues mettent leurs enfants dans des écoles sans écran.
Voilà.
Bon. Si eux-mêmes fabriquent ça et veulent pas que leurs enfants les utilisent, c'est sûrement un signe aussi. Quoi.
Ouais,
après, voilà, comme je disais, l'idée de cet épisode, c'est pas de se dire qu'on est des mauvais parents parce qu'on fait tous comme on peut pour tout. C'est plus d'informer, de savoir ce que ça fait parce que c'est vrai qu'on sait pas forcément. L'impact que ça peut avoir, et puis on peut avoir une vision faussée aussi, je trouve, de ça les aide, finalement.
Oui, mais il y a plein de parents qui pensent ça, et on peut comprendre, tout est fait.
Mais
quand tu vois les applications Montessori, mais voilà, tout est fait.
Ouais, c'est un peu bizarre. Hein.
Ouais.
Pour le coup, c'est un peu antinomique, là,
oui,
le truc.
Du coup... Enfin voilà, c'est normal que... Enfin, moi je pense que je suis aussi bien renseignée parce que je travaille dans le domaine, mais sinon...
C'est ça. Et que, du coup, on peut reprendre le contrôle sur la situation.
On peut,
et si on le fait, c'est pas seulement... Enfin, c'est pour son enfant, en priorité. Mais c'est aussi parce que ça va vous simplifier la vie à vous. Enfin, moi, je pense toujours à ça parce que je trouve que quand, en tant que parent, on a la vie plus simple,
c'est
quand
c'est
même
sûr.
Beaucoup plus facile de vivre sereinement avec son enfant. Et que là, en fait, on croit que ça nous simplifie la vie, mais que c'est le contraire.
En fait, c'est toujours la question du court terme et du long terme.
Ouais.
Oui, sur le moment, c'est peut-être plus simple, mais à long terme, pas forcément, voire non, pas du tout. Peut-être qu'on vous donne rendez-vous dans 15 ans pour voir comment on se débrouillera face à tout ça avec nos ados.
En tout cas, ça nous intéresse, vous, avec vos ados, si vous écoutez, de savoir comment vous faites. Et vous aussi, comment vous faites pour garder le contrôle. Ou si vous avez perdu le contrôle, dites-le.
Si vous étiez... C'est intéressant aussi de savoir si c'est des infos que vous aviez déjà, ou que vous aviez partiellement, et de savoir comment vous faites pour tenir et appliquer les recommandations éventuellement.
Qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous motive à pas le faire aussi?
Ouais.
C'est hyper intéressant. On sait que c'est un mécanisme psychologique hein, de si on fait mal, on va considérer que l'information est mauvaise. C'est la base de la dissonance cognitive. Mais c'est intéressant quand même de comprendre voilà quelles sont vos motivations aussi à l'inverse. Si vous avez décidé de ne pas suivre les recommandations, si vous les suivez quand vous pouvez.
Nous, voilà, on, comme je disais, on ne peut pas vous dire autre chose parce que ça fait aussi partie de notre travail.
Notre éthique.
mais voilà, après, on n'est pas rigide, parfaite ou je ne sais quoi.
Ça se saurait.
Enfin, parfaite, ça ne veut rien dire en plus. Enfin, on est la maman est parfaite. Parfaite pour son enfant. Donc voilà, pas de complexe par rapport à ça. Ben voilà, du coup, si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à commenter sous le podcast, l'épisode. Et puis surtout, faites-nous vos retours. Si le sujet vous plaît pas aussi, dites-nous pourquoi. Nous, on veut des retours constructifs pour s'améliorer de toute façon, donc n'hésitez pas.
Exactement. À bientôt.
À bientôt.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube The Happy Now.